Walter Benjamin à Marseille, du 15 septembre 2018 au 28 février 2019, un programme conçu par le Musée d'Histoire de Marseille.
Marseille, Paris et autres villes capitales, urbanité moderne dans le regard et la pensée de Walter Benjamin.
Lecture de fragments de texte de Walter Benjamin,
thème, lieu,
nom,
urbanisme, histoire,
politique. Par Liliane Giraudon, Marie Vessière, Suzanne Joubert, Aglaïa Mucha, Colette Tron.
Berlin, 1932, 1933. Wenn ich dann manches Mal schon gegen Morgen in einer Torfahrt innehielt, hatte ich mich in die asphaltenen Bänder der Stadt hoffnungslos verstrickt. Und die saubersten Hände waren es nicht, die mich frei machten. Berlin, 1932-1933. À Berlin, je n'ai jamais couché dans la rue. J'ai vu les crépuscules et les aurores, mais entre les deux, j'étais à l'abri. C'est de la ville quelque chose dont je n'ai pas fait l'expérience et que seuls connaissent ceux pour qui la misère ou le vice en fait d'elle un paysage qu'ils parcourent du coucher au lever du soleil. J'ai toujours trouvé un gîte, parfois tardif, il est vrai, et inconnu de surcroît, où je ne suis pas revenue et où je n'étais pas seule non plus. Lorsque je m'arrêtais si tard sous un porche, mes jambes s'étaient empêtrées dans le lacis des rues et ce n'étaient pas les mains les plus propres qui me délivraient.
Paris, 1932-1933. Ne pas retrouver son chemin dans une ville, il est possible que ce soit inintéressant et banal. Il y faut de l'ignorance, rien d'autre. Mais s'égarer dans une ville, comme on s'égare dans une forêt, cela réclame déjà tout un autre apprentissage. Il faut alors que les panneaux et les noms des rues, les passants, les toits, les kiosques ou les buvettes parlent à cet homme traqué comme les brindilles qui craquent sous ses pieds dans la forêt, comme le cri effrayant d'un butor dans le lointain, comme le calme soudain d'une clairière au milieu de laquelle s'élance un lys.
Paris m'a appris cet art de l'égarement. Il a exaucé ce rêve dont les plus anciennes traces sont le labyrinthe sur les feuilles de papier buvard de mes cahiers d'écolier. Il est également indéniable que je me suis retrouvée en son centre, la chambre du Minotaure, à ceci près que ce monstre mythologique avait cette fois trois têtes, à savoir celle des pensionnaires du petit bordel de la rue de la Harpe, dont j'ai franchi le seuil en rassemblant mes dernières forces. Et par bonheur, non sans le fil d'une Ariane. Mais si Paris a comblé mes attentes les plus anxieuses, il a dépassé d'un autre côté mes rêveries graphiques.
Récit d'Ibissa, 1933. Histoire née de la solitude. La lumière. C'était la première fois que je me trouvais seule avec mon ami dans un village que je ne connaissais pas. Je l'attendais devant la maison où je logeais. Nous voulions marcher encore un peu à la tombée de la nuit. En l'attendant, j'arpentais la rue du village. Alors, j'aperçus au loin, entre les arbres, une lumière. Cette lumière, pensais-je, à ceux qui la voient là chaque soir ne dit pas grand-chose. C'est peut-être celle d'un phare ou d'une lampe dans une ferme. En revanche, à moi qui suis ici étranger, elle a beaucoup de choses à dire. Sur ce, je fis demi-tour pour aller de nouveau jusqu'au bout de la rue. Je continuai quelque temps mes allers-retours, et chaque fois que je revenais sur mes pas, cette lumière entre les arbres capturait mon regard. Jusqu'au moment où elle m'obligea à m'arrêter. De nouveau, je m'étais retournée et je compris. Cette lumière que j'avais discernée juste au ras du sol était celle de la lune qui, s'élevant lentement, était passée par-dessus la cime des arbres.
Marseille, 1929. La lumière de magasin de primeur que l'on trouve dans les tableaux de Monticelli vient des rues du centre de sa ville. Les monotones quartiers résidentiels des indigènes qui savent quelque chose de la tristesse de Marseille. Car l'enfance est le sourcier du chagrin. Et pour connaître la tristesse de ville si glorieusement rayonnante, il faut y avoir été enfant. Les maisons grises du boulevard de Longchamp, les grilles des fenêtres du cours Puget et les arbres de l'allée de Meillan ne trahiront rien aux voyageurs si un hasard ne le conduit pas dans la chambre mortuaire de la ville, le passage de Lorette, la cour étroite, où, en présence de quelques hommes et femmes endormis, le monde entier se recroqueville en un seul dimanche après-midi. Une société immobilière a gravé son nom sur le portail.
Paris, 1935. L'idéal de Haussmann en matière d'urbanisme, c'était les perspectives ouvertes à travers de longues enfilades de rues. L'activité de Haussmann s'intègre dans l'impérialisme de Napoléon III, lequel favorise le capitalisme financier. Paris vit les plus belles heures de la spéculation. Haussmann s'efforce d'étayer sa dictature et de placer Paris sous un régime d'exception. Il exprime sa haine contre la population déracinée de la grande ville. Cette population que ses chantiers mêmes ne cessent d'accroître. L'enchérissement des loyers refoule le prolétariat dans les faubourgs. Ainsi, les quartiers de Paris perdent leur physionomie propre. Naît alors la ceinture rouge. Haussmann s'est lui-même qualifié d'artiste démolisseur. Il rend Paris étranger à ses propres habitants. Ils ne s'y sentent plus chez eux. Ils commencent à prendre conscience du caractère inhumain de la grande ville. Le véritable but des travaux de Haussmann était de protéger la ville contre la guerre civile. La largeur des boulevards doit interdire la construction de barricades et de nouvelles percées doivent rapprocher les casernes des quartiers ouvriers. Les contemporains qualifient le projet d'embellissement stratégique.
Moscou, 1927. Je venais de la poste. J'avais ensuite télégraphié et finalement cherché en vain l'exposition de dessins de malades mentaux en faisant un long tour dans le musée polytechnique. Je me suis dédommagée par une marche le long des échoppes qui sont adossées au mur du Kitaïgorod. Ici se trouve le centre du marché des bouquinistes. S'y mettre en quête de quelque chose d'intéressant en littérature non russe serait inutile. Mais on ne trouve pas non plus ici d'édition russe d'une époque assez ancienne, à en juger par les reliures. Pourtant, au cours de ces dernières années, des bibliothèques formidables ont dû être dispersées. Mais peut-être seulement à Leningrad, et pas à Moscou, où elles ont pu être plus rares. Sur l'Orokhniryad, une vision étrange. Des femmes sont debout, dans leurs mains ouvertes, un unique morceau de viande crue, une poule ou quelque chose du même genre sur une couche de paille, et elles proposent cela aux passants. Ce sont des vendeuses sans licence, Elles n'ont pas l'argent pour payer la licence d'un stand et pas le temps de faire la queue pour en avoir une d'un jour ou d'une semaine. Quand un milicien arrive, alors, elles filent, tout simplement, avec leurs marchandises.
Marseille, 1929. L'homme déchu qui, après la tombée de la nuit, vend ses livres à l'angle de la rue de la République et du Vieux-Port, éveille chez les passants de mauvais instincts. Cela les démange de profiter d'une misère aussi fraîche. Sur ce malheur anonyme, ils ont envie d'en apprendre davantage que l'image de la catastrophe qu'ils représentent pour nous. Car où doit en être arrivé celui qui a répandu devant lui sur l'asphalte ce qui lui restait de livres et espère maintenant qu'un désir de lecture veuille bien saisir quiconque passe encore aussi tard par ici. À moins qu'il s'agisse de toute autre chose. Nous passons en pressant le pas, mais à chaque coin de rue, nous serons de nouveau frappés, car le marchand du Sud s'enveloppe toujours dans le manteau du mendiant, de telle sorte que le destin nous dévisage de mille regards.
Wir hasten vorbei, aber wir werden an jeder Ecke von neuem stutzen, denn immer hat der südliche Händler den Bettlermantel so um sich geschlagen, dass mit tausend Augen das Schicksal uns daraus ansieht.
Récit d'Ibissa, 1932. Saint-Anthony. Les premières images de Saint-Anthony qui prêtent à réfléchir, ce sont les intérieurs que l'on découvre par les portes ouvertes quand les rideaux de perles en bois sont tirés. Le blanc resplendissant des murs, même dans l'ombre, saute aux yeux. Et devant le mur du fond, il y a normalement dans la salle de 2 à 4 chaises alignées. Par la façon dont elles sont disposées, la modestie de leur aspect, la beauté étonnante de la vannerie, par leur simple présence, elles ont beaucoup à dire. Mais ce ne sont pas non plus que des chaises. D'un instant à l'autre, leur fonction a changé. Un chapeau a été posé sur le dossier. Et dans cette nouvelle disposition, le chapeau de paille semble avoir acquis soudain autant de valeur que la chaise. Il se trouve que chez nous, dans nos maisons bien organisées, munies de toutes les commodités imaginables, il n'y a pas d'espace pour la véritable valeur des objets. Il n'y a pas d'espace pour l'utilité des choses. Alors qu'ici, des chaises peuvent être précieuses. Un vêtement aussi, une serrure et un tapis, des jarres et un rabot de menuisier. L'authentique secret de leur valeur réside dans cette sobriété, ce dépouillement dans l'espace vital, dans lequel non seulement l'objet peut occuper visiblement le lieu qui lui revient, mais aussi celui qui lui accorde un espace de jeu suffisant pour pouvoir satisfaire la grande quantité de fonctions occultes, chaque fois surprenantes, en vertu desquelles la chose courante devient précieuse.
Ibissa, 1932. Il y a chez les Hassidim un dicton sur le monde à venir qui dit « Là-bas, tout sera disposé comme chez nous. Comme est notre logis, il sera aussi dans le monde à venir. Où notre enfant dort maintenant, il dormira aussi dans le monde à venir. Ce que nous avons sur nous dans ce monde, nous le porterons aussi dans le monde à venir. » Tout sera comme ici, seulement un petit peu différent. Ainsi en va-t-il de l'imagination. C'est seulement un voile qu'elle fait passer sur un lointain. Tout peut bien rester comme c'était, mais le voile ondule et insensiblement, les choses se déplacent dessous. C'est un changement et une permutation. Rien ne demeure et rien ne disparaît.
Moscou, 1927. Nous nous sommes embrassés de nouveau et nous avons parlé de vivre ensemble à Berlin, de nous marier, de partir au moins une fois l'un avec l'autre. Assia a dit qu'aucun adieu à une ville ne lui avait été aussi difficile que l'adieu à Berlin. Est-ce que cela tenait à moi ? Nous avons pris ensemble un traîneau pour aller chez Raklin. Il n'y avait pas assez de neige dans la Tverskaya pour permettre au traîneau de circuler rapidement. Cela allait mieux dans les rues latérales. Il a pris un chemin que je ne connaissais pas. Nous sommes passés devant un établissement de bains russes. Je savais déjà par expérience qu'ils sont les véritables antres de la prostitution, comme il l'était en Allemagne au Moyen-Âge. Je lui ai parlé de Marseille. C'était une belle soirée calme.
Marseille, 1929, Les Briques. So heißt das Hurenviertel nach den Leichtern, die 100 Schritt davon an der Mole des alten Hafens vertaut sind. Ein unübersehbarer Fundus von Stufen, Bögen, Brücken, Erkern und Kellern. Denn dies Depot von ausgedienten Gassen ist das Hurenviertel.
Marseille, 1929. Les Briques, c'est ainsi que s'appelle le quartier des putains. Il tire son nom des allèges qui, à une centaine de mètres de là, sont amarrés au môle du Vieux-Port. Un immense magasin de marches, de ponts, d'arches, d'encorbellements et de caves. Cet entrepôt de rue désaffectée, c'est le quartier des putains. Des limites invisibles partagent le territoire de manière nette et anguleuse entre les bénéficiaires à la façon des colonies africaines. Les putains sont placés aux endroits stratégiques, prêtes au moindre signe à circonvenir des hésitants, à se renvoyer le récalcitrant comme une balle d'un trottoir à l'autre. S'il ne perd autre chose à ce jeu, il y perdra au moins son chapeau. Quelqu'un a-t-il déjà pénétré assez avant dans cet amas immonde de maisons pour parvenir jusqu'au plus intime du gynécée, la chambre, où sont accrochés, alignés sur des étagères ou empilés sur des râteaux, les emblèmes dérobés de la virilité, les canotiers, les melons, les feutres, les borsalines, les casquettes de jockey. Le regard rencontre par hasard la mer au travers des bistrots.
Marseille, 1929. Mâchoire infecte de phoque qui recrache l'eau salée entre ses dents jaunes. Cette gueule happe les corps noirs et bruns des prolos que lui jettent en pâture les compagnies maritimes à l'heure des départs. Il s'en dégage une puanteur d'huile, d'urine et d'encre d'imprimerie. Elle vient du tartre qui s'attache au puissant gosier, kiosque à journaux, toilette publique, étal d'huîtres. Le peuple du port est une culture de bacilles, portefaix et putains, des produits de décomposition à forme humaine. Mais la voûte du palais semble rose. C'est ici la couleur du vice et de la misère. Les bossus s'habillent ainsi, de même que les mendiantes. Et l'unique couleur des femmes décolorées de la rue Bouterie vient de leur unique vêtement, des chemises roses.
Récit d'Ibissa, 1933. Souvenir d'un vœu. La fée, grâce à laquelle on peut disposer d'un vœu, existe pour chacun. Mais peu nombreux sont ceux qui savent se souvenir du vœu qu'ils ont prononcé. Peu nombreux pour cela sont ceux qui, plus tard dans leur vie, en reconnaissent l'accomplissement. Moi, je me souviens pourtant bien du vœu qui, pour moi, s'est accompli. Il se formait en moi lorsque, tôt dans la matinée d'hiver, à 7h30, la lampe s'approchait de mon lit et projetait au plafond l'ombre de la bonne qui allumait le feu. Quand le feu était prêt, elle mettait une pomme à cuire dans le four. Les volets n'étaient pas encore ouverts que déjà j'écartais le verrou de la porte du poêle afin de surprendre la pomme. Voilà le fruit sombre et chaud, la pomme dont la senteur s'emparait parfois si fortement de mon cœur qu'elle me consolait encore pendant la marche vers l'école. Arrivée là, au contact de mon banc, la fatigue auparavant dissipée revenait décuplée. Et avec elle, ce vœu, dormir, dormir, dormir. Ce vœu, je pense l'avoir formulé mille fois, chaque fois que l'espoir d'une nouvelle situation et d'un pain assuré était demeuré vain.
Milan, 1927. Le cimetière s'étend devant nous. Pas un cimetière à proprement parler, mais un champ de marbre, éblouissant et irritant. Quelques échafaudages, ici et là, on travaille à construire des tombeaux particulièrement élevés. Il faut signaler ici avant tout que chaque Milanais, pour une somme donnée et naturellement très élevée, peut s'acheter une concession funéraire sur laquelle il se fera édifier un monument. La mort, qui est démocrate et l'allié des pauvres, s'est vengée. Car il en est sorti un effroyable amoncellement de laideur et de banalité arrogante. Il faut divaguer dans les territoires du mysticisme et du fantastique pour trouver une explication. Bien sûr, chaque construction en particulier est aussi vulgaire que fastueuse. Mais comment cet effet d'ensemble, cette laideur superlative et renversante, ont pu être obtenus, voilà qui est à peine imaginable.
Marseille, 1929. La cathédrale se trouve sur la plus déserte et la plus ensoleillée des places. Centre de transbordement pour une marchandise insaisissable et impénétrable, l'édifice désert se trouve entre le môle et les entrepôts. Presque 40 ans, on y a travaillé. Cependant, lorsqu'en 1893, tout fut terminé, la situation et l'époque de ce monument s'étaient victorieusement liguées contre les architectes et les maîtres d'œuvre. Et les riches moyens du clergé avaient donné naissance à une gare géante qui ne put jamais être livrée au trafic. On distingue sur la façade les salles d'attente à l'intérieur, où les voyageurs des quatre classes, pourtant devant Dieu ils sont tous égaux, coincés dans leur bien spirituel comme entre des mâles, lisent, assis, dans les livres de cantiques, qui ressemblent beaucoup avec leur concordance et leur correspondance aux indicateurs internationaux des chemins de fer. Des extraits du règlement des chemins de fer sont accrochés au mur sous forme de lettres pastorales. On consulte des tarifs d'indulgence pour les excursions dans le train de luxe de Satan et des toilettes où celui qui a beaucoup voyagé peut se laver discrètement sont mises à la disposition du public sous forme de confessionnaux. C'est la gare de religion de Marseille. On assemble ici, à l'heure de la messe, des trains de wagon-lit
pour l'éternité.
Berlin, 1933. Et quand je pense à Berlin, c'est l'aspect de la ville que nous explorions à cette époque-là, qui, seul, m'apparaît vraiment accessible aux prises de vue photographiques. Plus nous nous approchons, en effet, de l'existence actuelle de la ville, fonctionnelle, labile, plus le domaine de ce qui est photographiable en elle rétrécit. On a remarqué à juste titre qu'avec une usine moderne, par exemple, la photographie n'a presque plus rien d'essentiel à fixer sur la plaque. On pourrait peut-être comparer de telles images aux gares qui, en général, à notre époque où le chemin de fer commence à passer de mode, ne donnent plus l'accès authentique qui permette à la ville de se dérouler depuis sa périphérie et ses faubourgs, comme au long des voies d'accès pour automobilistes. La gare donne, pour ainsi dire, l'ordre d'une attaque surprise, mais désuète, et qui ne rencontre que l'ancien. Il n'en va pas autrement de la photographie, et même de l'instantané. Berlin, 1929. Wenn man alle Städteschilderungen, die es gibt, nach dem Geburtsorte der Verfasser in zwei Gruppen teilen wollte, dann würde sich bestimmt herausstellen, dass die von Einheimischen Verfassten sehr in der Minderzahl sind. Der oberflächliche Anlass, das Exotische, Pittoreske, wirkt nur auf Fremde. Als Einheimischer zum Bild einer Stadt zu kommen, erfordert andere, tiefere Motive. Motive dessen, der ins Vergangene statt ins Ferne reist. Immer wird das Stadtbuch des Einheimischen Verwandtschaft mit Memoiren haben. Der Schreiber hat nicht umsonst seine Kindheit am Ort verlebt.
Récit d'Ibissa, Saint-Anthony, 1933. Poème triste. On s'assied sur la chaise et on écrit. On est fatigué, de plus en plus fatigué. On mange à l'heure qu'il faut. On se couche à l'heure qu'il faut. On a de l'argent. C'est un cadeau du bon Dieu. La vie est magnifique. Le cœur bat de plus en plus fort. De plus en plus fort. La mer est de plus en plus calme. De plus en plus. Jusqu'au fond.
Marseille, Paris et autres villes capitales, Urbanité moderne dans le regard et la pensée de Walter Benjamin, a été lu au Musée d'Histoire de Marseille le 13 octobre 2018. Co-réalisation, Musée d'Histoire de Marseille, Alphabet Ville, Radio Grenouille, Euphonium.